de recueillement de Sainte-Marie de 18h à 21h. Et puis la veillée de Monsieur Phil et Christian aura lieu ce soir au 14 boulevard François Reboul, route de l'église de Sainte-Thérèse, jusqu'à 21h.
L'heure sur RCI avec Nespresso Martinique. L'heure vous est offerte par Top Martinique, votre spécialiste en tôle aluminium. Top Martinique, notre métier, notre passion.
Vous écoutez RCI, il est 18h.
Vous recherchez de la tôle de qualité pour vos projets ? Top Martinique est là pour vous. Du 16 au 31 mai, profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à moins 20% sur toutes les tôles en aluminium. Rendez-vous chez Top Martinique à Ducos. Mamaï, bagaille là au top. Top Martinique, la tôle, notre métier, notre passion.
Tout de suite, le grand journal de cette fin de journée présenté par Dominique Giraud. Bonsoir.
Bonsoir. Trier les patients avec des pertes de chance pour certains, c'est la crainte exprimée par les organisations syndicales après une note de service interne du CHU. Une note qui demande au chef de service de reporter à la fin du mois l'ensemble des admissions qui peuvent l'être. Quatrième temps fort du campus Anthropocène aujourd'hui à la SARA. Conférence et visite de terrain, examiner les risques environnementaux d'un site industriel Céveso comme la raffinerie des Antilles. Première édition de la journée du Madras en ce 16 mai 2024. Après une conférence sur le sujet, un défilé de créateurs est prévu ce soir à Ducos. 200 millions d'euros de dégâts en trois nuits d'émeute en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, selon la CCI, plus de 80% du circuit de distribution a été anéanti par les pillages et les incendies. Les habitants sont désormais rationnés. L'histoire des sœurs Nardal au sommaire de À la page. Pour en parler, Léa Mormin-Chauvac, autrice de la première biographie sur les sœurs Nardal, et la doctorante en histoire Valérie-Anne Edmond-Mariette. Le rendez-vous d'Erika Govindorazo, c'est à partir de 18h30. L'arrivée du quintet couru à Longchamp, 9, 11, 8, As, 4.
18h, toute l'info sur RCI avec Dominique Giraud.
Mais tout d'abord, on parle sport pour ouvrir cette édition. Edwin Becerra ne s'alignera pas au départ du Grand Prix du 22 mai organisé ce week-end par son club, la Pédale Pilotine. Ce matin, le coureur cycliste vénézuélien de 38 ans a heurté un véhicule lors d'un entraînement sur route. L'accident s'est produit vers 8h30 au niveau de la Pointe Chaudière, entre le Vauclin et le François. Pris en charge pour une douleur à la clavicule, Edwin Becerra a quitté l'hôpital en fin d'après-midi. Écoutez ses premiers mots à sa sortie des urgences, ainsi que ceux du président et entraîneur de la Pédale Pilotine, Gustave Joachim Arnaud. Les deux hommes ont répondu au téléphone de Katine Bilas-Copette.
C'est une voiture qui freinait devant de moi et je mets pour derrière de la voiture. C'est très difficile, très compliqué pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas que pour les, pense que pour les courses de Vendôme, c'est terminé. C'est terminé, c'est compliqué pour moi. J'espère que pour le tour, je meilleur, je ça va d'ici à le tour de la Martinique.
C'est un coup apprécié puisque c'est un ancien vainqueur du tour de la Martinique. C'est sûr que je compte énormément sur lui. Mais malheureusement, hein, bon, ce sont des aléas de la vie. Hein. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas et puis qui arrivent. Hein. Il se bat là pour essayer de mettre un t-shirt. Il grimace énormément parce qu'il a mal. Et je pense que pour le 22 mai, il ne sera pas opérationnel.
Voilà le président de la Pédale Pilotine, Gustave Joachim Arnaud, précédé des propos d'Edwin Becerra. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de cette collision. Surprise et déception à l'annonce de la liste élargie des 18 joueuses de l'équipe de France de basketball retenues pour préparer les JO 2024. Sandrine Gruda ne figure pas parmi les bleus sélectionnés par Jean-Aimé Toupane. Gênée par les blessures de ces derniers mois, la basketteuse martiniquaise ne participera donc pas à ses quatrièmes JO. Aujourd'hui âgée de 36 ans, elle ne présenterait pas toutes les garanties physiques pour un tel événement. Une déception partagée par le président de la Ligue de Martinique de basketball, Franz Dambo, interrogé par Christian Boutrin.
Personnellement, je dis, malgré son âge, il a quand même montré depuis des années sa valeur, entraîneur quel qu'il soit, eu égard à tout ce qu'elle a prouvé, bien porté haut les couleurs de la France, aurait pu, pour la sélection à venir, elle aurait pu être retenue pour ces JO. Ce serait peut-être ces derniers JO. la sortie aurait été beaucoup plus honorifique et la reconnaissance encore plus belle. Je me rappelle Sandrine, sa première sélection en U13, nous sommes partis à Guy Pavas, et dès sa première sélection, avant même la fin de la compétition, et qui était dirigée par Saint-Angevé Bob à l'époque, même avant même la fin de la compétition, elle a été repérée et retenue tout de suite pour l'équipe de France, mais avant d'être même à l'INSEP Moutre, hein, d'accord. Les talents ont été démontrés ailleurs sur la planète, aux États-Unis et ailleurs, hein.
Voilà, Franz Dambeau, président de la Ligue de Martinique de basketball. L'équipe de France de basket, elle, doit se réunir le 6 juin prochain pour lancer officiellement sa préparation pour ces JO 2024. Avec la seule Française triple championne olympique d'athlétisme à leur côté, des centaines de collégiens ont participé aujourd'hui au Lagardère Paris Racing. Marie-Josée Pérec assistait à ce cross géant destiné aux élèves de 5e de toute l'Île-de-France. À 3 mois des JO de Paris, la Guadeloupéenne tenait à transmettre la nécessité de concilier les performances avec une tête bien pleine. Marie-Josée Pérec est au micro d'Aline Druel.
Pour moi, c'est important. En fait, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. En fait, on est vraiment dans la transmission. Donc, en fait, ça nous permet justement d'avoir cette grande fenêtre, hein, comme je vous dis. En fait, on nous écoute un peu plus. Enfin, on a un énorme microphone, donc il faut s'en servir pour faire grandir les jeunes, parce que moi, c'est en fait le sport, c'est toute ma vie, les jeux, c'est toute ma vie. Enfin, moi, j'ai tout mis dedans. J'ai mis de l'énergie que je n'avais pas, donc c'est ce que je voudrais en fait avec ces enfants, que chacun trouve sa voie, que ces gamins deviennent des adultes demain qui sont bien dans leur peau, qui se réveillent le matin, qui font quelque chose où ils sont bien, quoi. Parce que quand on se réveille le matin et qu'on fait quelque chose qui nous plaît, mais on a une belle vie. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont ça. Donc il faut très tôt leur expliquer ça. Voilà.
18h07, la pénurie d'eau potable continue d'affecter le calendrier scolaire dans plusieurs communes de l'île. Aujourd'hui encore, les écoles du Diamant ou de Saint-Joseph n'ont pu accueillir leurs élèves et dans certains cas, la restauration scolaire ne pouvant être assurée, il a été demandé aux parents de venir chercher leurs enfants dès la mi-journée. Au François, le maire, lui, a dû mettre en place 4 points d'eau potable dans le bourg pour permettre aux habitants de s'approvisionner à toute heure. Ces points d'eau sont situés sous le préau de l'ex-école Anne-Marc au Pont-Séraphin. Quant aux distributions d'eau, elles se poursuivent au Morne-Pitot, le quartier de la commune du François le plus impacté à ce jour. L'information a fuité sur les réseaux sociaux, une note d'information interne adressée à tous les services du CHU de la Martinique appelle l'ensemble des chefs de pôle et de service à prendre une série de mesures à compter de ce jeudi 16 mai. Signalant un hôpital en tension, le document demande d'accélérer les sorties, de procéder aux opérations des patients déjà présents dans les plus brefs délais et de reporter l'ensemble des admissions programmées pouvant l'être à la semaine du 27 mai, voire au-delà si possible. Une situation difficile que regrettent les organisations syndicales des personnels soignants. Selon leurs responsables, une meilleure concertation aurait sans doute permis des mesures préventives pour faire face au manque de lits disponibles. Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé, l'a dit au téléphone de Kathleen Bilas-Copette.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Effectivement, il manque de l'argent au CHU. Mais il y a un manque d'organisation, un manque d'anticipation sur les choses. Parce que celui qui vous parle ne fait que le répéter matin, midi et soir. Quand est-ce que nous allons s'asseoir autour d'une table pour prendre les bonnes décisions, pour acter les urgences? Qu'est-ce qui est plus urgent? Comment on fait? Quelle somme qu'on met à côté? Comment on fait? Où on commence? Où et on s'arrête où? Mais il n'y a rien qui se met en place. Et là, ça devient fatigant, usant. On a un personnel démotivé qui veut travailler, mais malheureusement, vous savez, un poisson, ça ne pourrit pas par la queue, mais ça pourrit par la tête. Donc, si la tête n'est pas en mesure de diriger, ben la queue ne peut pas suivre. C'est le chef d'orchestre qui donne le là. Malheureusement, c'est pas le cas en ce moment, et pourtant, nous avons tout plein de directeurs. Mais moi, je suis fatigué de faire des allées et des venues dans différents services, particulièrement aux urgences qui sont en grande souffrance. Tant Trinité qu'en Fort-de-France. Ce sont les portes d'entrée de l'hôpital qui sont déjà en souffrance. Donc, comment on fait? Et je ne parle pas des autres collègues qui sont dans les différents services, hein. Dans les différents services de soins, on est obligé d'interpeller l'administration matin, midi, soir concernant les conditions de travail, l'hébergement des patients. Il y a des services qui n'ont pas d'eau potable. C'est impensable.
Et contacté par notre rédaction, la direction du CHU n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour l'instant. Quatre ans après la création de la Maison des aidants familiaux de Martinique, située au quartier d'Orival, au Lorrain, le président du conseil exécutif de la CTM s'est rendu sur place aujourd'hui. Serge Letchimy souhaitait s'informer sur les bénéfices d'une initiative qui permet aux aidants de trouver des solutions de répit, de faciliter leurs démarches administratives ou encore de progresser vers une éventuelle reconversion. Aujourd'hui, en Martinique, la part de proches aidants dépasse les 15% de la population âgée de plus de 5 ans. La structure qui leur est consacrée fonctionne essentiellement grâce au mécénat. Sa présidente, Véronique Panfile, l'a dit au micro de Mégane Bourdon.
Notre association a été créée en 2020 pour venir soutenir les aidants familiaux. Ce sont des personnes qui s'occupent de leurs proches, même quelquefois voisins, et qui ne sont pas rémunérés pour ce faire. Donc, nous les accompagnons au quotidien sur leurs demandes, par exemple, des dossiers dans l'e-administration, monter un dossier, aller chercher des financements, mais également à trouver du répit, parce que nous organisons des bulles de répit en sophrologie, yoga. Ce sont des moments où les aidants se retrouvent entre elles et ils, parce qu'il y a également quelques hommes, et ils peuvent vraiment se libérer un petit peu de leur quotidien. Difficile la plupart du temps. Mais cet accompagnement nécessite du personnel. Nous en avions 3, aujourd'hui nous avons 2. Et nous avons fait le choix au conseil d'administration d'aller davantage sur les prestataires pour éviter d'avoir une charge de personnel trop importante. Aujourd'hui, nous fonctionnons essentiellement avec un soutien de mécènes. Mais je considère que la problématique, elle est locale. Donc nous aussi, nous devons être soutenus par notre territorialité ici. Et la raison pour laquelle nous avons interpellé la CTM.
Véronique Panfil, la présidente de la Maison des aidants familiaux de Martinique. Après le bassin d'Orgeval, le bassin de l'Iseron ou encore la rade de Brest, chercheurs et représentants de la société civile sont réunis en Martinique pour s'interroger sur l'habitabilité des territoires et des régions insulaires dans le futur. Ce dernier temps fort du campus Anthropocène est co-organisé par l'Université des Antilles, le Centre des politiques de la Terre de l'Université Paris-Cité et la SARA, qui accueillit l'événement aujourd'hui. Au menu, conférences, visites de terrain et activités en groupe autour des problématiques environnementales, de la maîtrise des risques technologiques, de la transition énergétique, mais également de la sécurité autour d'un site Céveso comme la SARA. Valérie Pavius, la directrice RSE de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles, au micro de Myrta Paller.
L'objectif étant de montrer comment SARA s'intègre dans son environnement. C'est une entreprise particulière, c'est une entreprise à haut risque et comment nous travaillons pour maîtriser nos risques tant en interne mais surtout en externe, donc vis-à-vis des populations qui sont autour de notre site et comment nous agissons pour aller plus loin et donc par rapport à un métier très carboné, comment nous pouvons agir pour le futur et donc travailler sur la transition énergétique. Donc, quelles sont les options que l'entreprise aujourd'hui, sur lesquelles l'entreprise travaille et qu'elle peut offrir à les territoires sur lesquels elle est implantée. Nous avons eu un doctorant d'ailleurs qui a travaillé, qui est aujourd'hui docteur, qui a travaillé sur l'analyse des effluents par rapport à notre projet Green Water, savoir effectivement est-ce qu'il y avait un impact de cette nouvelle unité de dessalement d'eau de mer par rapport au rejet que nous avions en mer et nous assurer effectivement qu'il n'y avait pas de risque. Nous avons aussi un doctorant sur la Guadeloupe qui travaille aussi sur la méthanisation, notamment la sargasse. Donc vous voyez, la SARA est très attachée en tout cas à ces recherches puisque c'est celle qui nous permet de pouvoir progresser dans nos techniques.
Valérie Pavius, directrice RSE de la SARA avec Myrta Paller. La Martinique était appelée à célébrer ce 16 mai 2024 la toute première édition de la journée du Madras. L'initiative du collectif du patrimoine vestimentaire martiniquais invitait tout un chacun à arborer ce tissu symbolique des traditions de notre île, mais qui peut aussi être d'une modernité contemporaine. Pour le démontrer, un défilé de créateurs est ainsi proposé ce soir à la cantine centrale de Ducos. Mais sans attendre de découvrir ces créations, les agents de la municipalité du Lamantin s'étaient donné le mot aujourd'hui pour faire preuve d'imagination. Valérie Olini, la responsable du service communication interne de la mairie, au micro de Naïda Lebos.
Ce matin, on a eu un atelier Marie-Tête, donc naturellement, tous les agents qui ont participé à cet atelier ont défilé pour montrer un peu ce que c'est, comment réaliser un beau Marie-Tête avec le madras. Et puis bon, aujourd'hui je dis souvent le madras, il est lourd pour moi à porter parce que c'est beaucoup de couleurs, donc j'ai choisi d'avoir un vêtement bicolore avec quelques touches de madras au niveau des manches et un dos complètement en madras et puis un blanc qui rappelle la couleur jean pour porter un peu de modernité à ma tenue. Et c'est une manière pour moi de dire que le madras, on peut le porter finalement tous les jours. Le marée-tête, il a été fait avec deux tissus, un tissu en voile de coton et un tissu madras. Donc, on nous a expliqué comment attacher la tête. Donc, d'abord, poser le voile de coton. C'est toute une technique. Et ensuite, donc, poser le madras dessus, tortiller le coton de manière à faire une fleur. Et ça donne finalement un beau rendu entre coton et madras.
Et pour la conférence et le défilé à la cantine centrale de Ducos, le rendez-vous est dans un quart d'heure à 18h30. La première avait lieu ce matin pour les scolaires. La représentation grand public aura lieu, elle, demain à Tropicatrium. Après plus de 40 représentations dans toute la France, la pièce Braza Ouida Saint-Denis, consacrée à l'histoire des tirailleurs des colonies françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, est donnée en Martinique. La metteuse en scène Alice Carré s'est inspirée de faits réels pour mettre l'accent sur des faits qui sont peu enseignés à l'école, mais qui résonnent avec l'histoire de notre île.
On joue Salle Frantz Fanon et que Frantz Fanon était engagé dans la Deuxième Guerre mondiale comme soldat et que c'est au moment de cette guerre qu'il a pris conscience des injustices et des différences de traitement entre les Français et les Français des colonies. Il y avait beaucoup de tirailleurs aussi des Antilles. Évidemment, je sais que ça va résonner et que les gens dans la salle auront peut-être des choses à nous raconter après le spectacle et je trouve que c'est des moments de partage super précieux de pouvoir continuer à discuter et à se souvenir ensemble. Comme disait Glissant, que je pense qu'on n'est pas du tout au clair avec ce passé-là, qu'on n'a pas du tout réglé l'histoire parce qu'on l'a encore trop peu transmise. Et je pense que du coup, le passé n'est pas encore passé et qu'il faut continuer à le raconter et à réécrire l'histoire, pas seulement de la France hexagonale, mais de tous les territoires qui ont été occupés et colonisés par la France.
Alice Carré interrogée par Yves Agelin. La pièce Braza Ouida Saint-Denis sera donnée demain, donc, salle Frantz Fanon de Tropicatrium à partir de 19h30. Il privilégie généralement les endroits calmes et retirés, mais c'est sous un banc situé à l'extérieur de l'aéroport Martinique-Aimé Césaire qu'un serpent fer de lance avait choisi de se réfugier aujourd'hui. Alertés, les pompiers se sont rendus sur place ce matin. Formés à ce type d'intervention et munis du matériel adéquat, il ne leur aura fallu finalement que quelques minutes pour capturer le trigonocéphale et l'enfermer dans une boîte de transport. Un serpent qui peut se révéler dangereux pour l'homme en cas de morsure et qui a été remis au service spécialisé de l'Office français de la biodiversité. 18h17 sur RCI. Le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie après la pause.
Vivez des expériences incomparables avec nos machines Vertuo au design élancé et moderne. Jusqu'au 16 juin, profitez de nos offres exclusives. Offrez-vous votre machine Vertuo à partir de seulement 89€ au lieu de 159€. Vivez l'expérience d'un café inoubliable avec Nespresso. Ne manquez pas cette opportunité et rendez-vous dans nos boutiques Nespresso, Lamantin, Genipa, Véranda et maintenant à Océanie-Saint-Robert et sur notre site internet www.nespresso.mq. Nespresso, what else? Offre dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos conditions disponibles auprès de nos spécialistes café.
J'ai passé un très bon moment. Ça te dirait d'aller boire un verre quelque part pour faire plus ample connaissance?
Oui, pourquoi pas?
Ah, désolé, elle va démarrer, t'inquiète. Allez, allez!
Écoute, c'était sympa, mais je crois que je vais plutôt rentrer avec ma copine finalement.
Attends, Mélanie, elle va démarrer. Elle va démarrer.
Panne de batterie au mauvais moment, heureusement, chez AutoQuick, il y a des batteries à tout moment à 49,99€ seulement. 62 ampères, référence B60, toute l'année.
AutoQuick, l'expert sans concession.
Zach de Rivière-Roche. Break the rules,
casse les codes
et exprime ta singularité. Pendant les Fashion Lynx, la mode est en mouvement chez Lynx Optique. Nouvelle collection, nouvelle tendance, nouveau style.
Du 4 mai au 1er juin, la troupe Jack Unique Dancers va venir chez ton opticien pour un grand show dance. Alors sois là. Plus d'infos sur nos réseaux.
Lynx Optique, centre commercial La Galeria et à Fort-de-France qui a déménagé au 51 rue Victor Hugo.
Je sais qui je suis, Lynx aussi.
Près d'un humain sur quatre possède le gène de l'aventure. Si c'est votre cas, vous ressentez le besoin intense d'explorer de nouveaux horizons. Vous êtes en quête de sensations absolues. Vous devrez alors trouver les outils pour mener à bien cette exploration. Land Rover Discovery Sport et Range Rover Evoque. L'aventure et la passion sont dans notre ADN.
Votre voyage peut commencer aujourd'hui. Il suffit de faire votre choix. Rendez-vous en concession. Votre véhicule vous y attend. Land Rover. Voir conditions en concession. Pensez à covoiturer.
18h, 18h30. Toute l'info sur RCI.
18h20, face à une situation toujours très tendue en Nouvelle-Calédonie, Gabriel Attal annonçait aujourd'hui l'envoi de forces de sécurité supplémentaires pour tenter de sortir le territoire de la crise provoquée par la révolte contre une réforme électorale controversée. Ce matin, un gendarme a été tué par un tir accidentel de l'un de ses collègues, un décès qui porte à 5, dont 2 membres des forces de l'ordre, le nombre de morts en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes lundi. Sur le plan matériel, les 3 premières nuits d'émeutes ont causé pour 200 millions d'euros de dégâts, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour David Gayenne, 80 à 90% du circuit de distribution, magasins, entrepôts, grossistes de Nouméa ont été anéantis par les pillages et les incendies, estimant que l'économie calédonienne est structurellement atteinte. Le dirigeant a conclu que l'État va devoir intervenir. Pour les habitants de Nouméa, les difficultés d'approvisionnement sont désormais multiples. Les grandes surfaces rationnent désormais la vente de leurs marchandises. Clément Terra.
Les habitants se ruent sur les quelques denrées restantes. À Nouméa, Nathalie a patienté plusieurs heures dans la file d'un supermarché pour s'offrir le luxe d'acheter le strict minimum.
J'ai pu ramener juste 2 baguettes de pain, 2 riz, 2 paquets de pâtes, 1 paquet de farine. Il n'y a plus d'œufs. Ça nous inquiète, hein, forcément.
Elle craint les prochains jours.
Il faudra se restreindre, hein, c'est sûr. Hein. Moi, je me restreins. Hein. Pareil, je mange peu.
Dans les rayons presque déserts, tout est rationné. On ne peut pas acheter plus de 2 articles du même produit. Jean-Christophe Niotou, président de la Chambre d'agriculture et de pêche de Nouvelle-Calédonie, pointe les problèmes d'approvisionnement.
L'accès principal qui mène à Nouméa est aujourd'hui bloqué par des barrages. Donc la production de fruits, légumes ou de viande ne peut pas être transférée vers l'agglomération de Nouméa, Grand Nouméa. Aujourd'hui, le Grand Nouméa, c'est plus de la moitié de la population calédonienne. Hein. C'est 130, 150 000 personnes qui vont se retrouver très rapidement avec des difficultés d'approvisionnement d'alimentation.
Pour améliorer cette situation le plus rapidement possible, Louis Lefranc, le haut commissaire de Lille, a évoqué la mise en place de convois sécurisés pour atteindre les points de distribution alimentaire.
L'enquête avance pour retrouver le commando qui attaquait un fourgon pénitentiaire, tuant 2 agents et en blessant 3 autres pour faire évader un multi-récidiviste. Les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ainsi que de la Défense, Sébastien Lecornu, ont participé, eux, aujourd'hui à l'hommage rendu aux victimes dans un petit village normand à Incarville. Près de 500 personnes se sont rassemblées pour un recueillement silencieux. Le père d'Arthur Pereira, le jeune surveillant tué et qui allait devenir papa dans quelques mois, a exprimé son désarroi face à la perte de son fils. On écoute Dominique Pereira.
Je suis dans le même état, je n'ai toujours pas dormi. Ma colère est redescendue un petit peu. Mon fils, il était la joie de vivre, très intelligent. Il adorait son métier. Il s'était marié avec une demoiselle qui lui convenait parfaitement et c'était l'osmose entre les deux. Je suis toujours et je serai toujours fier de lui. Il était fervent supporter de Lens. Et d'ailleurs, j'ai eu une autorisation hier soir du Racing Club de Lens. Une minute de silence qui lui soit consacrée pour la dernière journée du championnat. Lens-Montpellier, dimanche à 21h. Et ils vont publier la photo sur les 4 grands géants du stade.
Et l'intersyndicale de l'administration pénitentiaire a appelé pour sa part à poursuivre demain les blocages des prisons. Les réponses du gouvernement à ces revendications comportent, selon elle, encore trop de conditionnels. En Martinique, le mouvement sera suivi demain pour la 3e journée consécutive. Pas de parloir, pas d'extraction non plus ce vendredi. Seule la promenade est maintenue pour les détenus. Israël annonce intensifier son offensive à Rafah avec l'objectif d'y anéantir les derniers bataillons du Hamas. Une guerre qui n'empêche pas la signature de gros contrats. Le constructeur français Alstom a signé un contrat de 700 millions d'euros aujourd'hui pour la construction d'un tramway interurbain dans le nord d'Israël. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un repreneur, l'AS Saint-Étienne, 3e au classement de la Ligue 2, va rentrer sous le giron de la société canadienne Kilmer Sport Ventures, une entreprise spécialisée dans les investissements dans le sport et les médias. Bien loin de leurs heures de gloire, les Verts cherchent depuis plusieurs années un tel repreneur. Si cet accord devait se finaliser, et selon les dispositions du droit français, la cession ne pourra pas être officialisée avant un mois, le temps pour les salariés de rendre leur avis. Les supporters, eux, sont optimistes. Le reportage de Raphaël Vantard.
La ferveur éternelle du chaudron, l'enthousiasme n'ont jamais quitté Saint-Etienne, mais il faut le reconnaître, ça fait longtemps, très longtemps, que les supporters des Verts n'avaient pas montré autant de confiance avec cette annonce du rachat du club. Une vente longtemps apparue comme un serpent de mer qui se concrétise ces dernières heures avec l'arrivée de l'homme d'affaires canadien Lawrence Tannenbaum. James a 30 ans, c'est un fan inconditionnel de la SSE.
C'est que de bon augure, cette vente, c'est génial, quoi. On a besoin d'argent pour reconstruire une équipe, remettre le monument qu'est la Saint-Etienne à sa place. On a envie de les revoir au beau niveau, en Ligue 1, en Coupe d'Europe, c'est tout ce qu'on espère.
L'enthousiasme est partagé à tous les étages du club, jusqu'à l'entraîneur des Verts, Olivier Dalloglio.
Ça se dessine plutôt bien. En face de nous, il y avait des personnes très respectueuses du club, qui ont des très grandes ambitions. Donc ça, c'est bien.
Et pour parfaire cette vague d'optimisme, il ne manque qu'une victoire de la SSE demain, combinée à un faux pas d'Angers. Cela permettrait aux Verts de retrouver la Ligue 1 et surtout de renouer avec leur glorieux passé.
Le quintet, il s'est couru à Longchamp aujourd'hui. Pour l'emporter, il fallait jouer 9, 11, 8, As et 4. Demain, c'est à l'Hippodrome de Paris-Vincennes que se disputera le prix de Nogent avec 16 partants qui devront parcourir 2100 mètres. Le départ est là aussi en nocturne à 14h15. Marc Cadas vous propose de jouer 4, 6, 9, 10, 7, 15, 14, 8, je répète, 4, 6, 9, 10, 7, 15, 14 et 8. Pour le 2 sur 4, Marc vous propose le 4 et le 6. Il est 18h26 sur RCI, nous refermons cette édition. 18h30 à la page consacrée ce soir au Sœur Nardal.
Merci beaucoup Dominique Giraud. On vous retrouvera tout à l'heure pour le dernier flash de la journée. Ce sera à 19h sur RCI.
L'info continue sur www.rci.fm. RCI, c'est la vie. La ligne Alerte Info sur RCI. Vous souhaitez nous contacter, nous communiquer une information? Composez le 63 31 31. Soyez les contributeurs de la rédaction d'RCI. 0596 63 31 31. La ligne Alerte Info de RCI. 63 31 31.
Chaque jour, vous vivez des moments uniques. Allouego est fier de vous accompagner sur les routes de Guadeloupe et Martinique. Allouego, votre loueur local, c'est un large choix de voitures et utilitaires pour particuliers et professionnels. Rendez-vous sur www.allouego.rent et au 0801 101 101. En Guadeloupe et Martinique, faites confiance à votre loueur local. Allouego ?
En ouaille ! Coucou mes loulous, c'est Gilles Saint-Louis. Dis-moi, est-ce que tu connais les offres indiscutables de Centre Auto? Ce sont des offres si évidentes et si intéressantes que l'on n'a même pas besoin d'en discuter. Tout est déjà dit. Par exemple, le Hyundai Kona Initia 120 chevaux suréquipé est à seulement 299 € par mois. Je répète, 299 € par mois. C'est bluffant, simple et évident. Pas d'auto
sans passer par Centre Auto. Location avec option d'achat. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager, voire conditions en concession.
Pensez à covoiturer.
Tenez-vous prêts, car les tendances de la mode débarquent à la Galeria. Du 11 mai au 1er juin, les boutiques de la Galeria vous présenteront leurs plus belles collections. Des ateliers, des ventes flash et de belles remises sur les nouvelles collections et des défilés hommes, femmes, enfants tous les samedis. Alors, pour connaître le programme et les boutiques sélectionnées chaque samedi, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous saurez tout. Les tendances de la mode, on les retrouve uniquement à la Galeria. La Galeria, ma ville à moi.
Et frère, pas couru tout partout. Allez direct à Hypno Direct.
Célébrez la fête des mères en grand au Simo Hôtel le dimanche 26 mai. Pour 110 €, profitez d'un repas exquis avec boisson incluse et une coupe de champagne. Offre exclusive avec parking gratuit sous réserve de disponibilité. Prévoyez dès maintenant votre escapade mémorable en réservant au 05 96 50 22 22. Réservez tôt, les places sont limitées. Offrez à votre maman une journée spéciale qu'elle mérite au Simon Hôtel, l'incontournable pour les moments savoureux.
Leclerc.
Offrir une tablette à maman pour la fête des mères? Oui, mais pas une tablette en chocolat. Du 15 au 26 mai, retrouvez la tablette Honor Pad X9 noir Android au prix canon de 199€, voire modalité en magasin. Et exceptionnellement le lundi de la Pentecôte, vos Leclerc Galeria, Place d'Armes et Rond-Point vous accueilleront de 8h à 13h.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Dans votre quotidien professionnel, la garantie est une condition essentielle. La garantie d'un niveau de prestation irréprochable pour vos clients. Et même la garantie des meilleures conditions de travail pour vos employés. C'est pourquoi votre concession Mercedes-Benz Martinique vous offre une garantie de 5 ans ou 50 000 km sur l'achat d'un fuseau Canterben ou Ben Puscoffre. Assurez-vous la garantie du meilleur pour votre profession.
Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession Mercedes-Benz.
3 000€ à gagner.
3 000€ à gagner sur RCI. Alors tentez votre chance. Envoyez tout de suite RCI 972 au 97 777. Écoutez bien le mot de passe pour la super cagnotte de ce vendredi. Vincent, V-I-N-C-E-N-T. Vincent.
Si ça sonne, répondez.
Comment ça cache ?
3 fois 99 centimes plus coût d'un SMS. Règlement sur RCI.fr.
Tirage au sort ce vendredi, 8h45. 3 000€ à gagner.
Soyez à l'heure pour l'anniversaire de Dom Cash. Dom Cash à votre service. Toujours à l'heure avec Yop.
Yop. Ne renonce jamais.
Bon début de soirée sur RCI, il est 18h30.
Célébrez l'anniversaire de Dom Cash avec nous du 13 au 26 mai. Venez découvrir nos offres exceptionnelles. Nous vous attendons du lundi au samedi à votre magasin de Place d'Armes. Ne manquez pas nos offres anniversaires incroyables. Par exemple,
le lot de 6 maxi bobines 450 feuilles à seulement 15,99€. Et le carton de cuisses de poulet 10 kg, 18,99€. Soit 1,89€ le kilo seulement.
Alors à très vite chez Dom Cash. Dom Cash à votre service.
Yop sera nous. Parfum goût exquis, goût qui revient, douce saveur du raisin qui reviennent comme refrain.
Yop, goût grappette, le goût américain des années 50 revient en édition limitée. Yop, raisin grappette, encore un Yop qui me tente.
Yop. Ne renonce jamais.
Pour votre santé, bougez plus. Mangezbouger.fr.
À la page, le magazine littéraire de RCI, présenté par Erika Govendorazo.
Tout de suite, retrouvez votre rendez-vous littéraire avec Erika Govendorazo qui vous propose À la page.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la page, votre rendez-vous littéraire diffusé tous les jeudis à 18h30 sur RCI. Ce soir, on met en lumière une histoire singulière, l'histoire de 7 sœurs, jusque-là peu connues, et pourtant dont l'héritage est à l'origine d'une grande partie de ce que nous sommes du point de vue culturel et intellectuel à la Martinique. 7 sœurs martiniquaises, les sœurs Nardal, Gomé de l'histoire militante noire. Et avec nous pour en parler en studio, 2 femmes qui œuvrent pour rétablir la vérité sans animosité. Léa Mormin-Chauvac, autrice de la première biographie sur les sœurs Nardal, bonsoir.
Bonsoir Erika.
Et Valériane Edmond-Mariette, doctorante en histoire, bonsoir.
Bonsoir Erika, bonsoir Léa, bonsoir aux auditeurs et auditrices des RCI.
Bienvenue à tous, vous écoutez RCI, c'est parti pour votre émission littéraire À la page.
Erika Govendorazo, À la page, le magazine littéraire de RCI.
Le mouvement de la négritude se forme à Paris dans l'entre-deux-guerres quand 3 jeunes intellectuels déracinés s'associent pour fonder la revue L'étudiant noir, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. Voilà ce que l'on trouve comme résultat quand on tape « origine du mouvement de la négritude » dans un moteur de recherche bien connu du web. En lisant cela et après avoir lu votre livre, Léa, j'ai un peu le même sentiment que quand on nous apprenait dans les écoles de Martinique que nos ancêtres étaient des Gaulois à l'époque. Et certainement, en tant que femme noire, il y a un sentiment de tromperie. Votre livre s'intitule « Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire ». Rien que le titre est sans équivoque. Vous affichez la couleur, Léa.
Oui, c'est sans équivoque, mais c'est quand même déjà un peu plus nuancé que le titre du documentaire que j'avais coécrit en 2023 et qui parlait d'oublier de la négritude.
Oui.
Je pense qu'en disant à l'avant-garde de la cause noire, l'idée c'est de parler de la multiplicité des personnes qui ont permis de façonner ces combats et ces luttes, et de dire aussi qu'on est rarement seul en fait pour fonder un mouvement politique ou en tout cas pour provoquer un changement politique.
À quel moment vous vous intéressez à l'œuvre des Sœurs Nardal?
En 2018, puisque comme beaucoup de personnes, alors pas Valériane pour le coup, mais en tout cas pour moi, Nardal, c'était surtout le nom d'un arrêt de bus. Et en 2018, donc fin 2018-2019, je suis tombée sur le livre de mémoire rassemblé par Philippe Goldmoon, qui a été un fonctionnaire qui a travaillé en Martinique dans les années 70,
ouais.
Et qui a fait partie de la chorale Joie de chanter, fondée par Paulette Nardal, et qui a recueilli ses mémoires, et donc il les a rassemblées et publiées en 2019. Et c'est comme ça que j'ai connu leur travail et leur nom.
Est-ce que vous vous rendez compte tout de suite du changement de donne que représente le fait de ramener le récit de la vie des Sœurs Nardal en pleine lumière, finalement?
Il y a quelque chose qui me fait me rendre compte, en tout cas à ce moment-là, qu'il y a un intérêt autour, c'est parce que je vois quand même qu'à ce moment-là, on est plusieurs, il y a Catherine Marceline ici, il y a cet article que moi je fais paraître dans Libération. Il y a aussi un colloque à la CTM quelques mois après. Mmh. Et il y a une allée à Paris dans le 14e qui prend le nom de Paulette et Jeanne Nardal. Et c'est là quand même que je me dis, il y a quelque chose. Il semble y avoir quelque chose. Mais sur le moment, non, on commence à travailler. Non, je me dis, bon, c'est une figure historique qui a été oubliée. On va travailler sur elle. Non, pas forcément.
Qu'est-ce qui explique que la contribution des sœurs et surtout de Paulette Nardal ait été rendue invisible, Léa?
Ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui a sans doute et majoritairement le fait qu'elles étaient des femmes, et donc des femmes qui prenaient la parole publiquement dans les années 30 et ensuite à la Martinique après leur retour. Donc c'est certainement la première raison. Je pense aussi qu'il y a une forte tension politique et une tension de classe, qu'elles n'étaient pas forcément d'accord avec les idées qui étaient majoritaires à l'époque et que ça leur a valu d'être un peu aussi mises de côté. Et puis il y a le fait que Paulette Nardal, en 1939, elle a été blessée très gravement. Et donc elle a été blessée au genou dans le torpillage de son bateau alors qu'elle essayait de revenir en France. Elle était à la Martinique, elle essayait de revenir en France. Cette blessure très douloureuse l'a sans doute empêchée aussi de travailler, de publier autant qu'elle le voulait. Je pense qu'il y a vraiment un ensemble de raisons et qu'on peut les expliquer différemment et que déjà Valériane et mon mari et moi, on a peut-être des manières un peu différentes aussi d'aborder ça. Donc c'est vraiment un ensemble de faits qui font qu'elles ont été oubliées.
Avant de devenir des pionnières de la cause noire dans le Paris des années 30, elles vivent une enfance et une adolescence en Martinique, à Fort-de-France, au 83 rue Schellcher, où elles sont choyées et éduquées, ce qui n'est pas anodin à l'époque.
C'est peut-être aussi une des raisons qui font qu'elles ont été oubliées, hein, parce qu'il y a un peu de jalousie, je ne sais pas. C'est sûr que leur éducation pour des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont nées au début du XXe siècle, elle est tout à fait rare, exceptionnelle. Le fait que leur père les encourage à faire des études est exceptionnel. Le fait qu'elles en fassent toutes est exceptionnel.
Et puis on dit de cette famille qu'ils sont quand même originaux, alors non seulement par cette ascension singulière du premier noir ingénieur des ponts et chaussées, leur papa, un homme noir sans embâge, vous dites. Qu'est-ce que c'est un homme noir sans embâge?
Ça veut dire qu'il ne faisait pas partie de la classe qu'on appelle mulâtre.
Ouais.
Et qu'il était noir, vraiment. Son arrière-grand-mère était esclavisée et c'était un homme noir.
Il faut se remettre dans l'époque, c'est pas rien, effectivement, pour cette époque non plus.
Absolument. Et le fait qu'elles soient des femmes noires aussi, qui ne soient pas des femmes claires, pas des femmes mulâtres, pas des femmes qui rentrent dans le stéréotype de la femme aux cheveux lisses et au teint doré, c'était aussi exceptionnel.
Et au-delà de ça, on a l'impression aussi qu'ils ne vivent pas tout à fait dans les mêmes codes que les Martiniquais. C'est en ce sens-là que je parle d'originalité aussi.
En tout cas, ils affirment très tôt une fierté quant à leurs racines africaines, mais pas seulement. Et elles connaissent tôt leur histoire, c'est-à-dire qu'elles sont informées tôt de l'histoire de l'esclavage, ce qui est très rare en fait dans leur milieu social à l'époque. C'était vraiment, on n'en parlait pas, c'était un sujet tabou, on avançait, on n'allait pas comme ça se plonger dans...
Et c'était perçu comment à l'époque?
Original.
Oui.
Original, grande bourgeoise, peut-être qu'on les accusait aussi d'être prétentieuses, de vouloir s'élever au-dessus de ce qu'elles étaient, excentriques. Pas toutes, mais en tout cas certaines, c'était oui.
Et puis le 83 rue Schellcher, c'est déjà finalement un petit clamart. Est-ce que les sœurs Nardal, Paulette et Jeanne notamment, ont reproduit finalement ce que leurs parents leur ont transmis?
Oui, ah oui, c'est certain. Leurs parents reçoivent beaucoup et elles vont reproduire ça à Paris. Et en plus, ils reçoivent, ils font jouer de la musique. Leur salon est vraiment aménagé pour qu'on puisse voir des pièces de théâtre, pour qu'on puisse voir des représentations musicales, on chante, on lit, on échange, et c'est ce qu'elles vont reproduire chez elles à Paris. Oui.
On parle des sœurs Nardal comme une espèce de nébuleuse finalement, mais c'est vrai que chacune d'entre elles, elles ont œuvré pour la défense de la cause noire francophone, mais au-delà, je pense aux auteurs, aux artistes de la Harlem Renaissance, et puis tous ceux qui étaient finalement de passage à Paris, qui c'est qui rentrait ? Qui rentre dans le cercle des sœurs Nardal à l'époque ?
Alors elles sont surtout Paulette Nardal, elle est vraiment fascinée par Alan Locke, qui est l'auteur de l'anthologie de New Negro, et donc elle a la chance, elle est vraiment contente de pouvoir le rencontrer, de l'inviter chez elle à Clamart. Et puis il y a aussi Claude Maquet, qui est l'écrivain qui a écrit Banjo, et il y a aussi la sculptrice Augusta Savage, toutes ces personnes justement de la Harlem Renaissance. Mais en fait on voit aussi Félix Eboué, il y a Saint-Gor qui vient, qui est tout jeune, et qui est amené par René Maran. Et René Maran, qu'elle rencontre dès son arrivée à Paris, et qui donc lui fréquente beaucoup le salon des sœurs Nardal. Voilà, il y a une multitude
de choses. C'est quoi le lien justement avec Saint-Gor ?
Le lien avec Saint-Gor, c'est que Saint-Gor admire beaucoup René Maran. Je ne sais pas comment ils se sont connus exactement, ça c'est quelque chose, une information que je n'ai pas. Mais toujours est-il que c'est par l'entremise de René Maran qui finit par aller au salon des sœurs Nardal, et Paulette Nardal l'aide à s'inscrire à la Sorbonne.
Ouais, ça c'est pas rien non plus.
Oui.
Comment sont perçues les sœurs Nardal qui catalysent ce monde artistique dans le salon qu'elles ont créé dans leur appartement dans le sud de Paris ? Comment elles sont perçues par les autres, par ce monde noir-là ?
Il y a un auteur dont j'ai oublié le nom qui dit qu'il est vraiment, il est vraiment choqué et étonné de voir des femmes qui ont tant d'aisance, qui parlent aussi bien, qui sont si élégantes. Et en fait, il y a quelque chose qui fascine, surtout chez Paulette Nardal. Elle devait avoir une stature vraiment impressionnante et quelque chose de très calme et en même temps de très puissant. Toujours est-il que tous ses interlocuteurs semblent vraiment fascinés par ce qu'elle est, ce qu'elle représente.
Alors, évidemment, il y a des apports en littérature ou encore en musique, notamment au retour de Paulette Nardal en Martinique. Valériane, vous êtes historienne, vous vous intéressez notamment à l'histoire de la musique antillaise. De quand date votre rencontre avec cette histoire, avec l'histoire des sœurs Nardal ?
Alors, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase personnelle, puisque en fait j'ai eu la chance de faire mes classes au couvent de Cluny, ouais. Et en fait de pouvoir rentrer à la chorale Arpège. Et quand je rentre à la chorale Arpège, qui est dans ses premières années d'existence, c'est la deuxième année, quelque chose comme ça, en fait Arpège est marinée par Joie de chanter.
La chorale qui a été fondée par Paulette Nardal.
Et donc en fait, il y a vraiment ce côté où en fait je vois des femmes noires, des femmes martiniquaises qui chantent, qui sont élégantes, qui sont sur scène et tout. Et donc moi je suis en sixième, donc c'est mon premier contact en fait. En sachant que dans la transmission qui nous est faite, on sait que c'est une chorale qui est très importante. Je comprends pas à ce moment-là tous les enjeux. Oui. Voilà, j'ai même pas le nom en fait. Parce que c'est pas clair, ou peut-être qu'on me le dit, mais en tout cas je m'en rappelle pas. Et donc ça c'est la première rencontre personnelle, je dirais, qui la relève de l'intime. Après, on a, je commence mes études d'histoire, et puis en faisant mes études d'histoire, forcément, ce sont des noms sur lesquels je tombe. Et puis, sort ces mémoires qui sont, en fait, c'est vraiment le premier ouvrage en français qui donne la parole de Paulette Nardal, parce que il y a des ouvrages dans le monde académique anglophone, mais finalement, c'est des ouvrages où on comprend ses idées, ce qu'elle pense, etc. Mais on n'a pas la lecture, on n'a pas sa voix, en fait. Ouais. Et là, le fait d'avoir ses mémoires qui sortent en 2019, si je ne me trompe pas, là, c'est encore une autre facette. Et c'est là que moi, je vois vraiment l'apport, je me rends compte de l'importance de l'apport musical et de la métamorphose, même si j'avais déjà des petites pistes. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que tout se joue pour moi.
Est-ce que cet apport musical, il est rendu aussi invisible finalement dans l'histoire ?
Alors, je dirais pas qu'il est rendu invisible, parce que on a la chance d'avoir des travaux d'ethnologues, d'ethnomusicologues, d'anthropologues, mais aussi de passionnés de musique sur nos musiques. Mais en fait, il y a
c'est pas vulgarisé.
Même si c'est vulgarisé, par exemple, l'année dernière ou il y a deux ans, je me trompe peut-être, il y a Joko qui sort un recueil de chansons. Le recueil est épais, je crois que c'est 400, un peu plus, 300, 400 pages, quelque chose comme ça,
ouais.
Où en fait, il a fait une recension de nos chansons. Donc, il y a des travaux qui sont marquants, qui sont là où le grand public y a accès. Maintenant, la problématique que l'on a, c'est qu'on n'a pas d'ouvrages sur l'histoire de nos musiques. Et en fait, on a des ouvrages, comme je dis, en anthropologie, en ethnomusicologie, qui sont très importants, mais qui vont pas nous permettre
de comprendre.
Voilà, ils vont se concentrer, par exemple, sur le belay, sur les pratiques des mandes. Voilà, mais on n'a pas cette lecture avec tous nos genres musicaux, tous nos acteurs musicaux, et finalement, en fait, ça fait que on se rend pas compte. Donc, pour le coup, je dirais pas qu'il y a eu une invisibilisation. Je dis juste que comme il y a pas d'histoire de notre musique écrite, on peut pas se rendre compte, en fait.
Mais c'est quoi, justement, l'apport? Si on devait un peu résumer l'apport de Paulette Nardal, notamment.
L'apport de Paulette Nardal, en termes de chorale, il faut bien comprendre que la vague de chorale qu'on va connaître, Joie de chanter, c'est 54, si je me trompe pas. Oui, puisqu'ils ont 70 ans. Donc, c'est ça. Je suis pas très douée en maths, mais normalement, ça devrait
c'est
aller.
C'est à peu près ça, oui.
Et pour le coup, à partir de 54, on va avoir fleurir des chorales en Martinique.
Ce qui n'existait pas.
C'était pas une pratique. Alors, on chantait, parce que, on va à l'église, et à l'église, on chante. Donc, il y avait quand même des petites choses mises en place, etc. Mais en fait, Paulette Nardal, elle fait un travail qui est concomitant avec le père Élie. Où en fait il y a des chorales qui se montent et donc on va avoir la multiplication des chorales. Paulette Nardal harmonise les chants de notre folklore, ce qui jusque-là n'était pas fait. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, le fait d'harmoniser ces chansons, c'est les faire rentrer
dans le patrimoine.
Voilà, c'est vraiment les institutionnaliser. C'est plus des chansons qu'on entend par-ci par-là où on a une trace, un peu un vieux CD de Léona Gabriel ou une vieille cassette, un vieux vinyle, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose où on a un outil pour faire apprendre. Et moi, je sais que j'apprends à la chorale arpège des chansons qui ont été harmonisées par Paulette Nardal. Donc il y a et quand je me rappelle plus en quelle année j'étais en sixième, mais il y a un certain nombre d'années qui étaient passées. Donc pour le coup, en fait, il y a ce premier travail, et à côté de ça, avec ses sœurs, puisque là c'est pas qu'elle, avec ses sœurs, elles vont notamment créer le concours de la chanson créole, qui va devenir le concours de la chanson de carnaval. Elles vont aider à structurer la façon dont culturellement on pense le carnaval. C'est un travail qui est complémentaire avec le travail que mènent Loulou Boislaville et Simone Boislaville. Donc en fait, il y a toute une émulation après la Seconde Guerre mondiale qui travaille, enfin ce sont des personnes qui sont passionnées et qui vont travailler à l'institutionnalisation de nos pratiques musicales. Quand je dis pratiques musicales, c'est autant le chant que les instruments, que la danse, en fait. Et ça, c'est hyper important, parce que s'il n'y a pas cette étape-là, ça n'arrive pas à nous, en fait.
18h46, vous écoutez votre émission littéraire à la page. C'est l'heure de notre coup de cœur du libraire. Un coup de cœur un peu spécial puisque Jean-Claude Malot de la librairie Casabu nous partage son ressenti à la lecture de votre ouvrage, Léa. Bonsoir.
Bonsoir Erika et bonsoir à tous les auditeurs d'RCI. Alors j'ai choisi ce soir en fait deux livres. D'abord, effectivement, le livre de Léa Mormachovac, Lessard Nardal, à l'avant-garde de la cause noire, et aussi Écrire le monde noir de Paulette Nardal. Il faut se rendre compte que ce n'est que le 19 février 2020 que le lycée du Centre-Sud à Ducos a été rebaptisé lycée Paulette Nardal. Quel chemin parcouru depuis la naissance de Paulette Nardal en 1895, c'est-à-dire 48 ans après l'abolition de l'esclavage, et toutes les actions qu'elles ont pu mettre en avant, elles et ses sœurs, que ça soit au milieu artistique, on l'a vu d'ailleurs lors du rendez-vous qui a eu lieu au Centre culturel de Lamantin, et aussi au niveau des revendications, à la fois de la femme et du monde noir. Donc, quand on parle effectivement de Césaire, quand on parle de Léopold Léonard Senghor ou de Léon Gontran Damas, il ne faut pas oublier que par derrière, il y a une femme. Une femme ou des femmes qui ont poussé effectivement cette cause. C'est pour ça que je vous conseille vivement de lire ce livre de Léa Mormachovac, qui reproduit très très bien cette époque et qui est d'abord facile à lire, et ça je félicite Léa pour ce travail de simplification et de vulgarisation de cette époque. Et je conseillerais aussi Écrire le monde noir, comme je l'ai dit, de Paulette Nardal, qui est sorti chez l'éditeur Haute-Beaucrique, qui reproduit tous les écrits, ou une grande partie des écrits de Paulette Nardal, notamment de 1928 à 1939. Voilà. Là aussi, on voit la modernité de l'écriture de Paulette Nardal. Donc, je répète, Lessard Nardal de Léa Mormachovac, Écrire le monde noir de Paulette Nardal. Bonne soirée.
Merci Jean-Claude Malot de la librairie Casabulle pour ce double coup de cœur et donc transition tout trouvée pour parler de ce second ouvrage. C'est vrai que le hasard fait que à deux jours près paraissent deux livres sur la sororie Nardal, celui de Léa Mormin-Chauvac le 17 avril qui évoque l'ensemble de l'œuvre des sept sœurs et puis ce recueil de textes de Paulette Nardal et de sa sœur Jeanne, Écrire le monde noir, paru le 19 avril chez cette petite mais immensément prometteuse maison d'édition Rothbuchcrie. Qu'est-ce qui vous lie à eux, Valériane?
C'est d'abord l'amour de la recherche. On est tous des fous. On s'est lancé dans des trucs de recherche. En fait, Rothbuchcrie, c'est des chercheurs et des chercheuses okay. qui veulent mettre en perspective des travaux qu'on ne trouve pas dans le monde francophone, qu'on ne trouve pas en français, en fait. Et donc, ils relèvent ce défi de traduire notamment des ouvrages comme celui de Bret Ace Edwards mm-hmm. sur les sœurs Nardal, enfin entre autres, comme écrire le monde noir de Paulette, puisqu'en fait il s'agit de faire une anthologie de ses textes, ou comme par exemple La couleur de l'oubli de Merle Collins, qui pour le coup est une autrice grenadienne en fait, et donc là c'est un roman, et donc pour le coup leur travail c'est ça. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés au détour de nos recherches et le courant est très bien passé. Moi, je me fournis chez eux déjà pour un certain nombre d'ouvrages, voilà. Et en fait, ils m'ont naturellement demandé, connaissant mon amour pour mon pays et puis aussi connaissant mes travaux et ayant vu aussi le documentaire de Léa dans lequel j'ai eu la chance ou l'honneur d'être interviewée, ils m'ont demandé si j'acceptais de faire un peu la promo pour eux en Martinique de cet ouvrage, puisque pour l'instant, ils ne peuvent pas venir. Voilà.
Un mot d'ailleurs sur le documentaire et sur le chemin que vous avez parcouru entre la sortie de ce documentaire et la sortie du livre. Vous le disiez que vous aviez un peu évolué, peut-être, dans la façon d'aborder les choses. Et Léa
Bah déjà, c'est vrai que le format s'y prêtait plus. Le format du livre se prêtait à plus d'introspection, de recherche, de temps. Mm-hmm. Et un format télévisé de 52 minutes, ça demande de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix. Là où j'ai dû moins en faire pour le livre. Donc il y a vraiment ça. Et puis je pense aussi que j'ai écrit le livre d'une perspective différente puisque j'étais rentrée. Et donc c'était pas la même chose d'écrire depuis la Martinique et de préparer un documentaire qui, certes, a nécessité beaucoup de jours de tournage et de recherche ici, mais qui a été quand même fait et commandé depuis la France hexagonale.
C'est quoi la différence, justement, dans le fait d'être ici, de vivre effectivement dans le quotidien des Martiniquais, d'être en Martinique?
Ouais, je pense d'avoir accès à plus d'interlocuteurs et d'interlocutrices, ça c'est sûr, mais c'est aussi de voir l'impact ou le non-impact, c'est-à-dire de mesurer à quel point elles avaient été oubliées ou méconnues. Et en même temps, je dis ça, et là me revient en tête des bribes et des souvenirs que me donnent parfois des personnes quand on parle du livre ou quand on parle du film. C'est-à-dire des gens qui, justement, ici, ont été les élèves, par exemple, d'une des sœurs Nardal, et qui se souviennent de choses. Où, il n'y a pas très longtemps, une dame m'a dit, et j'avais jamais entendu ça avant, « Ah, mais on disait tout le temps que Paulette Nardal parlait cette langue. » Et ça, je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que je ne le savais pas. Et c'est en étant ici qu'on le sait.
Ouais. Ouais. Léopold Sédar Senghor a écrit, on va revenir au livre, a écrit à Paulette Nardal le 11 octobre 1966, alors qu'il était déjà président du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage qui reprend le contenu de cette lettre dans le livre?
Oui. Cher ami, vous aurez été étonné de recevoir mon télégramme. En voici, très simplement, l'explication. À l'occasion du premier Festival mondial des arts nègres, j'ai été amené à faire l'historique du mouvement de la négritude. C'est ainsi que je me suis souvenu qu'à côté des négro-américains et des haïtiens, il y avait les Martiniquais. Et parmi ceux-ci, votre initiative, si féconde, de la revue du Monde Noir. Je n'ai pas manqué, au demeurant, de vous rendre hommage à l'occasion du Festival mondial des arts nègres et plus récemment, à l'occasion de mon voyage aux États-Unis.
Est-ce que cette lettre représente une sorte de mea culpa, une sorte de lettre d'excuse de la part d'un des membres de la trinité masculine que l'on croyait être finalement les seuls à l'origine de la négritude?
Moi, c'est une forme de reconnaissance importante, en tout cas pour Paulette Nardal. Je crois que ce sera aussi presque un soulagement.
Oui.
Elle en est très heureuse et la décoration est remise à la préfecture. Et le discours qu'elle écrit à cette occasion exprime vraiment une très grande fierté et un soulagement, oui, de voir son travail reconnu. Et je pense que c'était ça, mais c'est tardif et c'est peu.
Ouais.
il faut quand même nuancer parce que ça intervient juste après que Joseph Zobel ait demandé à Senghor d'inviter Paulette Nardal au Festival Mondial des Arts Nègres, qui est quand même un événement énorme.
Oui, c'était l'occasion.
C'était vraiment l'occasion. Et en fait, il refuse apparemment par manque de moyens. On peine à croire qu'il manquait de moyens pour le Festival Mondial des Arts Nègres, où à peu près le monde entier, le monde noir entier se produit. Donc c'est une vraie reconnaissance.
C'est Joséphine Baker qui anime la nuit antillaise au festival.
Voilà.
Il y a encore des choses à dire.
Et oui. Voilà. Donc c'est une reconnaissance. Elle est officielle, elle est symbolique, elle a le mérite d'exister. Elle est quand même insuffisante.
Avant de retrouver le dernier rendez-vous d'information locale et régionale de ce jeudi, le flash de 19h présenté par Dominique Giraud, on va refermer cette émission avec un titre emblématique pour l'Amérique noire du XXe siècle et au-delà. Un morceau inspiré ce soir par vous, Léa, par vous, Valériane, et par toute cette génération qui travaille à l'émancipation, à la valorisation de nos cultures et aux questions qui touchent à la décolonisation. A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, un classique iconique, indémodable. Merci mesdames, c'était À la page. Très belle soirée à l'écoute de RCI.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Tania Saint-Val Forever. Tania Saint-Val, comme vous ne l'avez jamais vu. GC Productions et L2NK Productions présentent Tania Saint-Val en concert le 29 mai 2024 à 20h au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Venez redécouvrir cet tube inoubliable et partager un moment unique. Tania Saint-Val en concert le 29 mai, un spectacle en partenariat avec Corsair, un événement RCI.
Nous sommes tous concernés par la protection et le respect de l'environnement, la promotion de l'emploi et l'accès au numérique pour tous sur nos territoires. Les entreprises s'engagent, à l'image d'Orange, qui donne la parole à ceux qu'elle accompagne au quotidien.
Ce vendredi à 11h45, retrouvez Ça bouge au pays.
Cette semaine, nous parlerons atelier numérique et protection des données personnelles.
Rediffusion samedi à 12h30 et dimanche à 12h55.
C'est le mois de l'utilitaire chez AutoGM. Infatigable dans l'effort. Découvrez la gamme de véhicules utilitaires Volkswagen. Jusqu'au 31 mai, bénéficiez de nos offres conçues pour les pros, comme le Volkswagen Caddy à partir de 19 990 euros et le Volkswagen Crafter à partir de 33 990 euros. Fonctionnel, adaptable et polyvalent, les utilitaires Volkswagen vous assistent au quotidien.
AutoGM, la garantie des grandes marques.
Pensez à covoiturer, se déplacer moins pollué. Voir conditions en concession.
Soyez à l'heure pour assister aux Jeux Olympiques grâce au jeu des bouchons jaunes Coca-Cola, Fanta et Sprite.
Vous écoutez RCI, il est 19h.
Un séjour exclusif à Paris pour assister aux Jeux Olympiques 2024, ça nous fait tous rêver, hein? Alors on tente sa chance et on joue au jeu des bouchons jaunes Coca-Cola.